Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Malgré l'apparente faconde de ses habitants, Toulouse est encore méconnue. Loin des yeux parisiens, bien sûr, loin du cœur. On y voit que la capitale de l'aéronautique et de la recherche spatiale. On se moque de son accent qui tient au parler occitan, langue de nos ancêtres. Et on oublie sa richesse patrimoniale, sa vie littéraire, poétique, son goût pour la musique sous toutes ses formes et son accueil. Bon enfant, chaleureux, souvent humble, mais quelque peu modifié, il faut bien le dire, par un brassage de population inhérent à toute grande ville. S'employer à faire connaître Toulouse, son cœur, son âme, voilà ce que réalise Christian Autier avec son ouvrage intitulé « Petit éloge amoureux de Toulouse » et paru chez Privat. Christian Autier, bonjour. Alors, vous dites, lorsqu'on a toujours vécu ou presque dans une ville et que l'on y a vieilli jusqu'à un âge certain, celle-ci est beaucoup plus qu'un décor ou qu'un cadre, elle est devenue une confidente, une compagne, une mémoire vivante. Toulouse est ainsi pour moi une sorte de journal, journal intime à ciel ouvert. Quasiment chaque rue réveille ses fantômes, des présences, des réminiscences. Et voilà, et nous allons donc vous suivre dans votre, dans cette promenade dans Toulouse. Déjà, les chapitres dont les titres font souvent référence à des films.
Oui, à des films ou à des livres.
Ou à des livres, oui. Alors, évidemment, ce n'est pas un guide touristique.
Non.
Et c'est tant mieux parce que des guides, bon, on en a suffisamment. C'est beaucoup plus complexe. Une manière de, je dirais, de décrire Toulouse, l'intérieur de la ville. On a parlé du ventre de Paris, c'est un peu le ventre de Toulouse, non ?
Oui, où j'ai songé aussi, ça aurait pu s'appeler le piéton de Toulouse, en clin d'œil au livre de Léon-Paul Fargue, le piéton de Paris, puisque c'est effectivement le livre d'un Toulousain, d'un marcheur. Et donc c'est effectivement une sorte de journal intime, d'autobiographie à travers la ville et de portrait de cette ville dans laquelle je vis depuis environ l'âge de 5-6 ans, donc ça fait 45 ans environ, et que voilà, qui m'a accompagné, que j'ai, comme disait, pour paraphraser Antoine Blondin, il me revient que nous avons un peu vieilli ensemble, donc c'est cette promenade, ce compagnonnage que j'ai essayé d'évoquer à travers un portrait encore une fois très, très subjectif, très personnel. Il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées. J'avertis d'emblée dans les premières pages, vous n'aurez rien sur la violette, le pastel, les capitouls.
Bon, honnêtement,
très peu sur le stade toulousain, sur l'aéronautique, l'aéropostale. Il y a beaucoup de classiques, ou même sur l'opéra, le Capitole. Il y a beaucoup de classiques que j'ai évacués pour préférer des choses encore une fois plus personnelles,
intimes,
personnages, des lieux.
Ouais. Ouais. Oui, voilà, c'est une visite intime et c'est votre aussi le souvenir de votre jeunesse, extrême jeunesse, je dirais, et des souvenirs. Alors, ce que vous gardez en mémoire, voilà ce que vous dites à un moment donné. La mémoire d'une ville et de ses habitants est une chose fascinante. Pourquoi certaines choses, certains êtres, certains lieux nous marquent tant et pas d'autres? Bien sûr, tout cela est affaire de subjectivité, de sensibilité, de génération, mais des noms font office de ces âmes quasi universelles. Il faut faire le test de l'épicerie Bourdoncle sur un Toulousain âgé d'au moins 35 ans. Si l'interlocuteur reste impassible, il suffit d'ajouter « rue Saint-Rome » et « odeur d'épices » et les souvenirs remontent, sortent de leur mal. Ils ne demandent qu'à s'ébattre, il suffisait de les libérer. Voilà, c'est tout à fait vrai. D'autant que vous parlez ensuite de la chapellerie Brosson. Et pour moi, je me souviens de la beauté de la chapellerie. L'intérieur était magnifique, si mes souvenirs sont exacts. Mais là, dans l'épicerie, il y avait ces odeurs. Mmh. Et on passait rue Saint-Rome et il y avait ces odeurs. Et c'est vrai que l'odeur réveille beaucoup de souvenirs. Alors donc c'est ce qu'on garde en mémoire. Vous parlez d'abord, il me semble, de ses habitants.
Oui, bien sûr, parce que je crois qu'on aime, comme le titre l'indique, donc c'est ces petits éloges amoureux de Toulouse. On n'aime pas une ville tant qu'on n'aime pas, tant qu'on n'a pas aimé les gens qui y habitent ou qui ont vécu. Donc c'est aussi, j'évoque des gens. Alors, moi, ce qui m'a fasciné, c'est pour ça que j'ai intitulé un chapitre, si je me souviens bien, des inconnus dans la ville. C'est quand on vit longtemps dans une ville, il y a comme ça, j'allais dire, des gens, des connaissances, des gens que l'on que l'on connaît sans les connaître, donc, c'est-à-dire des gens que l'on
vous
croise.
Vous les reconnaissez.
Voilà, que l'on croise pendant des années, auxquels on n'adresse pas la parole, on se croise à des heures particulières ou par hasard, ou enfin, je dirais, des moments inopinés. Et ils font partie, j'allais dire, du décor. Ils font partie du paysage. C'est un des aspects qui me touche beaucoup dans une ville. Alors, qui reste à dimension, j'allais dire, humaine, puisque bon, moi je suis un citadin, j'allais dire, du centre de Toulouse aussi, j'ai aucune vocation à évoquer Toulouse dans tous ses quartiers, j'en connais quelques-uns, mais c'est
le centre dont vous parlez essentiellement.
Voilà, le centre, entre guillemets, historique de la ville que je fréquente et que je connais. Mais ce qui m'avait frappé, je le mentionne dans le livre, c'est que Patrick Modiano évoque ça dans un de ses romans assez récents, dont le titre m'échappe là, mais il raconte qu'à des années de distance, il croise les mêmes personnes dans Paris, et donc ça m'avait beaucoup troublé parce que je m'étais dit, voilà, cette familière, enfin ces compagnies familières, c'est lié au fait que le centre de Toulouse soit malgré tout, comme on dit, le cliché est vrai, c'est un gros village, ouais. Et donc c'est à peu près normal que l'on croise les mêmes personnes
et en même temps,
pendant
des
années.
Il y a du monde.
Et Modiano décrit exactement la même chose à Paris.
Ouais.
Alors voilà, il dit qu'il y a...
c'est Modiano quelque chose... qui avait le chic aussi pour décrire la ville.
Oui, il y a les cafés, là aussi, en clin d'œil à Modiano, j'ai intitulé le premier chapitre dans les cafés de la jeunesse perdue, qui est le titre de l'un de ses livres, qu'il a emprunté à Guy Debord. Enfin, l'expression vient de Guy Debord. Mais oui, ça m'avait fasciné. Et moi, encore aujourd'hui, enfin, je croise régulièrement, par exemple, un de mes professeurs de collège de 5e. Donc c'était il y a 40 ans à peu près.
Il a dû vous marquer celui-là quand même.
Oui, mais je le reconnais, je le vois au moins une fois par semaine. Ouais. Et je croise des gens comme ça et d'autres que je ne connais pas, que je connais juste de vue. Et voilà, moi c'est quelque chose, c'est un détail, mais c'est une chose à laquelle je suis sensible, c'est des présences familières. Et quand ils viennent entre guillemets à disparaître, quand je les aperçois plus dans mes pérégrinations urbaines, ben ça, ils me manquent et je pense à eux.
C'est dans le fond, c'est une grande famille, je dirais. Il y a les disparus, il y a les encore présents, il y a les pièces rapportées, ou bon, on va dire. Et puis les personnes rencontrées auxquelles... On va en parler de ça aussi. C'est très intéressant ce que vous dites. Rencontrer avec qui on a accroché ou pas. Hein, il y a également des affinités qui se sont faites ou pas. Vous avez pris un pot ensemble et puis c'est terminé, il y a pas. Mais déjà la population, vous notez bien que il y a évidemment la population bourgeoise, de bourgeoisie de robe hein, plutôt universitaire. Maintenant il y a des ingénieurs, beaucoup plus qu'avant. Moi quand je parle avant, c'est bien avant ce que vous décrivez, je suppose. Populaire aussi. Il y a les deux quand même qui s'entrecroisent.
Oui, c'est une ville. Alors malgré tout, elle subit, comme toutes les grandes villes, alors moins que Marseille peut-être et moins que Bordeaux, Toulouse a du retard et je m'en plains pas, elle subit un processus de gentrification que connaissent toutes les grandes métropoles françaises, européennes et du monde.
Du fait
à peu
de
près.
L'augmentation des loyers.
Notamment. Mais il reste encore des quartiers un peu populaires, alors de moins en moins, mais je pense que le quartier Arnaud-Bernard reste un quartier populaire. Mais par exemple, il y a une rue que moi je connais parce que j'habite pas loin depuis très longtemps, qui est la rue Bayard, que je trouve assez fascinante, puisque dans ma jeunesse, donc il y a 30 ans, la rue Bayard, est ancestralement, j'allais dire à Toulouse, était une rue entre guillemets dangereuse. C'était rue mal fréquentée, de la prostitution, il y avait des bars et des restaurants qui étaient ouverts la nuit.
Et pourtant, il y avait l'étincelle où on allait après.
Fermé il y a quelques années à peine. C'était une rue agitée dans le bon sens et le mauvais sens du terme. Donc il y avait des boîtes de nuit, il y avait des restaurants ouverts la nuit. Et cette rue, elle est fascinante parce que depuis quelques années, donc elle a été, là aussi les trottoirs ont été agrandis, il y a quelques plantes vertes qui ont été plantées. Et surtout, c'est de voir les nouveaux commerces qui sont arrivés. Alors il y a un salon de sieste, il y a un boulanger bio.
Un salon de sieste
Oui, vous pouvez faire la sieste. C'est très branché dans les grandes villes boboifiées. Il y a un salon de sieste, il y a une boucherie très branchée. Enfin voilà, et on voit, et ça, oui. Ça côtoie les anciens commerces et l'ancienne population. Donc il reste des franchises à bas prix, de vêtements bas prix, il reste des kebabs, il reste des choses comme ça. Et on voit ces deux, et ça continue. En fait, il va y avoir un continuum des chalets aux allées Jean Jaurès en passant par la place Belfort. Il y aura un continuum gentrifié, boboifié de ces quartiers qui étaient.
Oui, parce que les chalets, c'était quand même un peu en dehors encore. Très
oui,
calme,
les chalets,
très...
voilà, les chalets, c'est, entre guillemets, ça a été embourgeoisé, c'est embourgeoisé depuis quelques décennies déjà. Et il y aura un continuum sur des quartiers qui étaient jusque-là très centraux, mais entre guillemets un peu malfamés ou populaires, comme la rue Bayard ou la place Belfort, qui vont, voilà, il y aura, et c'est amusant, on est à un moment charnière où on voit les deux identités de la ville ou de ces quartiers qui cohabitent.
Oui.
Donc on a encore l'ancienne rue Bayard, et on voit la nouvelle qui arrive avec sa nouvelle population, ses nouvelles activités, ses nouveaux commerces.
Il faudrait militer pour garder au moins quelques rues telles quelles, des spécimens.
Oui, après d'une manière générale, bon, l'hypercentre a été relativement bien protégé. Moi, bon, j'évoque dans un chapitre le quartier Saint-Georges et l'ancienne esplanade où il y avait la FNAC, qui a été un échec. Et justement, et la place Saint-Georges qui a été refaite en fait.
La petite place, vous voulez.
A été refaite il y a assez peu longtemps.
Est-ce qu'elle a vraiment été refaite? Elle a été un peu arrangée, mais il n'y a pas eu de gros changements, si.
Non, mais elle a à peine un demi-siècle d'existence, en gros. Et elle a failli être rasée et être rénovée dans le même sens que l'esplanade Saint-Georges, où il y avait la FNAC et Tati, le magasin Tati. Donc elle a échappé à cette rénovation, cette modernisation qui a très très mal vieilli de l'autre côté, à peine à quelques encablures. Elle conserve son charme.
Oui, parce qu'on va parler de ses échecs et on parlera des réussites quand même, ne soyons pas trop houellebecquiens. je m'amuse. Nous parlions de la population. Il faut noter quand même que c'est une population très jeune, deuxième ville universitaire. Et ça, vous voyez, quand je transporte certains écrivains qui viennent de Paris ou d'ailleurs, ils sont frappés de voir la jeunesse. C'est vrai que à Paris, ça se dilue. Mais à Toulouse, la jeunesse qu'il y a dans cette ville.
Oui, c'est très ancien. Moi, je me souviens déjà quand j'étais étudiant il y a 30 ans, la population étudiante était estimée à 100 000 personnes environ. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça doit être 115 000 ou encore plus, ou 120 000 ou 130 000. Donc, il y a à peu près un Toulousain sur quatre qui est un étudiant.
Oui.
Donc, effectivement, ça fait une population très jeune, très dynamique. On voit les places, les terrasses des cafés qui sont occupés par cette jeunesse. Et,
les Landes, le long de la Garonne, sur les quais.
Oui, donc c'est je pense, un atout. Enfin, ça rend cette ville assez, assez dynamique et juvénile. Et c'est effectivement, puis il y a ces universités, donc c'est effectivement un marqueur assez fort de la ville. Encore une fois, environ un habitant sur quatre est un étudiant.
Oui. Pour parler encore de la population, des gens que vous rencontrez, et je pense que vous en avez rencontré souvent parce que apparemment vous marchez à pied dans la ville. Hein, vous avez donc c'est très intéressant aussi de voir ce que vous dites, les retrouvailles ou au hasard des rencontres, des gens que vous aviez perdu de vue. Y a les jeunes qui veulent être jeunes, répondant aux dictats de l'époque sans doute, les vieux qui veulent toujours être jeunes. Et puis, ces rencontres, ces amitiés qui se nouent ou pas, ça, c'est intéressant également que vous disiez pourquoi on se perd de vue, pourquoi ça, vous en parlez dans votre livre.
Oui, encore une fois, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des gens que l'on croise, des silhouettes, et puis il arrive un jour où on les rencontre ou pas. Mais par exemple, dans les premières pages du livre, j'évoque, c'était le début des années 90, j'étais étudiant, j'allais beaucoup au Café Saint-Cernin, et j'apercevais des gens dont je vais devenir l'ami des années plus tard. Donc il y avait l'écrivain Alain Legoni, dont la ressemblance à l'époque avec Saddam Hussein était assez frappante. Donc comme on était au début des années 90, on savait qui était Saddam Hussein. Donc lui, évidemment, sa présence m'avait frappé. Et il y avait un jeune homme avec les cheveux très longs, qui avait une allure assez grande, très romantique du 19e siècle, qui m'avait frappé, qui s'appelle Sébastien de Courtois. Et ce qui est amusant, c'est que cette personne, je vais la connaître... presque 25 ans ou 30 ans plus tard, j'ai appris par la suite qu'il avait vécu à Toulouse ses années d'étudiant comme moi dans les années 90. Nous avions des amis communs parisiens Et en fait, je l'ai rencontré autour de 2015 à Istanbul où il vivait. Donc, c'est la première fois où je l'ai vraiment, enfin, où on s'est réellement rencontré. Donc, on a attendu 25 ans.
C'est pas courant de
voilà.
Vous
et lui-même se souvenait des livres que je lisais au Café Saint-Sernin. Donc, il y a ces, voilà, c'est ça les magies des villes et des cafés de la jeunesse perdue, comme je lis dans le livre. C'est qu'il y a des, voilà, des rapports qui sont dans les, ce que Modiano, encore une fois, appelle les couloirs du temps. Il y a cette espèce de choses un peu
impalpable,
énigmatique, ouais, ouais. Magnétique, mystérieuse, mais qui fait que voilà, il y a des rencontres qui viennent quand elles doivent advenir.
Vous dites au milieu d'amis artificiels et parfois jamais rencontrés dans la vraie vie, offerts par les réseaux numériques, je préfère le hasard, le destin, peu importe. Le nom que chacun donne à cette magie ordinaire de la vie sur Terre. Ce jour-là, donc, dans l'espace de 100 mètres, je revis de manière furtive ou un peu plus approfondie quatre personnes avec lesquelles j'avais connu, voilà plus de 20 ans, des moments anodins et d'autres inoubliables. Je ne sais pas quand ni même je reverrai Frédéric, peu importe. Rien ne nous enlèvera ce que nous partageâmes. Des rires, des insolences, des lectures communes, des ivresses, l'innocence de la jeunesse à l'arrêt des autobus, à souffler... nous menons alors vers la faculté. Oui, alors on se retrouve, et puis bizarrement, des gens qu'on avait rencontrés, bon, rien ne s'était passé de particulier, et des amitiés se renouent là, se nouent vraiment.
Oui, bah c'est un peu... Oui, ce que j'évoque, il y a à la fois la fidélité des amitiés qui durent et puis d'autres qui, voilà, dont les chemins nous séparent. Enfin, c'est assez banal, mais c'est pour ça que j'ironise, comme vous le citiez à un moment, sur l'expression se perdre de vue, parce qu'en fait, et je parle bien avant les réseaux sociaux, etc. Oui. Mais pour se perdre de vue, il faut être deux, quoi.
Donc, c'est qu'on n'a pas envie.
Voilà, c'est qu'en fait, on n'avait pas de réelle nécessité impérieuse. Oui. À part des situations de guerre ou d'exil, dans un pays comme la France, on ne se perd pas de vue. On peut trouver des adresses, des numéros de téléphone, des amis communs.
Oui, c'est
donc
vrai.
Bien avant les sites qui nous promettaient, je me souviens, parce que j'avais justement un ami de jeunesse qui avait travaillé sur ce site qui s'appelait Copains d'avant, qui était un peu l'embryon des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, qui existe toujours d'ailleurs, ce site internet qui permet de retrouver ses amis de classe, de maternelle, de collège, de faculté, etc. Oui. Mais bon, si on s'est perdu de vue, c'est qu'il y a une raison.
Il y avait une raison. Il y avait une raison. Et pourtant, on peut se retrouver, on a changé, hein, on ne sait jamais. Finalement, tel que vous le décrivez, je me dis que la rue, c'est comme un théâtre. Alors, il y a les utilités. Donc, tout à l'heure, vous disiez des personnages typiques ou pas, qui vous surprennent, qui vous amusent, ou alors un enchantement, une surprise. Il y a les originaux. Vous en avez rencontré à Toulouse. On en voit.
Et là aussi, je pense, bon, les quelques-uns que je cite dans le livre ont eu pas mal d'écho, apparemment. Enfin, tous les lecteurs que j'ai rencontrés les ont reconnus parce qu'ils étaient assez frappants. Mais alors, on appelait ça, naguère, sans être méchant ni péjoratif, mais les fous du village ou les idiots du village, des gens, on sent bien qu'ils sont marginaux, SDF, clochards, et qui font partie, qui ont parfois une personnalité assez exubérante et qui là aussi font partie de la personnalité, de l'identité d'une ville. Par exemple, si vous dites, là aussi c'est un peu comme le test de l'épicerie Bourdoncle, un petit bonhomme qui imite James Brown à Toulouse, bon, il y a plein de gens qui vont tout de suite reconnaître cet individu. D'ailleurs, qui a disparu de la ville il y a quelques années, où j'évoque aussi une dame d'un certain âge qui arpentait, alors soit qui mendiait, soit qui arpentait la ville d'un pas décidé en lançant des imprécations.
Celle-là, je l'ai connue.
Totalement variées et parfois, enfin, souvent drôles et parfois assez violentes. Bon, voilà, ces gens-là, ces originaux, comme je dis, font partie
en fait,
de la ville.
Des gens un petit peu paumés et dont on n'avait pas envie de se moquer finalement.
Non, pas du tout. Et qui étaient assez attachants et qui. Les gens. Voilà, il y avait plutôt, j'allais dire, de bonnes relations. Parce qu'ils apportent une sorte d'innocence, de poésie, de folie douce. Qui est pas du tout violente ni moi je me souviens de ce petit bonhomme qui jouait aux gendarmes et aux voleurs si je puis dire, enfin il voulait pas mais il défiait aussi les policiers municipaux parce qu'il se trimballait parfois avec une bouteille de vin, il arrêtait les voitures pour faire ses pas de danse, il faisait à la fois James Brown et le moonwalk de Michael Jackson, donc parfois ça chagrinait les policiers municipaux, donc il se courait après, c'était assez amusant et oui c'est les gens qui font.
Moi, j'ai le souvenir de cette personne dont vous parliez, cette femme. Et nous étions attablés au restaurant Place Wilson, en plein air. Et elle est venue, on parle et rapidement, elle a attrapé la bouteille de vin qui était sur notre table, elle est partie et le serveur qui lui court après, on lui dit oh, bon, c'est pas la peine. Finalement, puis en plus elle était très gaie, très sympathique, mais et très vive, très vive. Ouais. Et puis, on ne les voit plus. Il y a des gens qu'on ne voit plus, ce que vous dites, justement. Je me suis dit, j'ai pensé à ce texte de Jean d'Ormesson sur le train. On pense qu'ils vont être toujours là, et puis non, il y a des gens qui descendent, il y en a d'autres qui arrivent.
Oui, il y a une chanson de Charles Trenet aussi, dont je ne me souviens plus vraiment les paroles, mais dont le titre est « Où sont-ils donc ?»
Oui, « Où sont-ils donc ?» Voilà, c'est qui, oui.
Qui est très belle, et qui oui. C'est un peu ça, quoi. Et même, j'allais dire, pour les gens, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour des gens moins baroques, moins marquants, moi je suis très sensible, oui, à des gens que je croise régulièrement, et quand, au bout d'un moment, quand je les vois plus, je dis mince, mais où sont-ils donc ? J'espère qu'il leur est rien arrivé.
Oui. Il y a eu un attachement. Ça, c'est peut-être. Est-ce que vous pensez qu'à Paris, on peut avoir les mêmes relations ? Peut-être par quartier, finalement ?
Ben, c'est ce que je vous disais. Moi, j'étais frappé de lire sous la plume de Patrick Modiano qui croisait des gens dans divers arrondissements qu'il avait aperçus 20 ans, 30 ans plus tôt.
Mais maintenant que vous me dites ça, je pense aussi que c'est votre perspicacité à l'un comme à l'autre. Vous êtes attentif.
Je pense que c'est une marotte d'écrivain de regarder, d'observer. Je crois qu'il y a un de mes grands plaisirs, c'est d'être à une terrasse d'un café.
Et d'imaginer la vie des autres.
De regarder les gens, d'imaginer ce qu'ils font, à quoi ils pensent, ce qu'ils sont en train de lire, ou même en marchant, en croisant les gens, on essaie de deviner ou d'inventer les histoires qui se cachent derrière les visages et les postures, les tenues. Il y a un tic ou un penchant d'écrivain là-dedans.
Oui, sur Facebook, justement, il y a eu une discussion au sujet de l'imagination et de l'empathie, de gens qui disent « ça sert à rien ». Enfin bon. Puis effectivement, imaginer la vie qu'ont les autres, ça permet de les comprendre aussi.
Oui. Puis moi, par exemple, ça c'est un autre aspect. Mais par exemple, quand j'étais enfant, j'étais toujours fasciné par les lumières dans les immeubles. Enfin, quand je me souviens des voyages en voiture et la nuit, on voyait les fenêtres allumées. J'essayais déjà d'imaginer qu'est-ce qui se passait derrière ces fenêtres, toutes ces destins qu'on ne connaît pas.
Alors, dans Toulouse, il y a deux rues qui ne sont pas bien grandes, qui sont très animées. Il y a la rue des Lois et la rue du Thor, et bien connues, évidemment, des étudiants dont vous avez été.
Oui, c'est deux rues, entre guillemets, historiques à plus d'un titre. Moi, j'ai beaucoup d'attachement. Alors, d'une part, parce que c'était les rues, effectivement, qui me menaient à l'Institut d'études politiques quand j'étais étudiant. Et puis, parce qu'il y avait notamment, par exemple, rue du Thor, il y avait la Bible d'Or, la librairie de Georges Jousset, que j'évoque dans le livre. Il y avait plein d'autres librairies.
Très cher au cœur des étudiants dont j'ai été à une époque, mais je l'ai connu, donc il était plus jeune que vous ne l'avez connu. Et c'était un homme extraordinaire, un amoureux des livres, mais des gens aussi. Enfin, il m'a prêté des livres.
Oui, c'était un de ses... Il disait, vous me le ramènerez, si ça vous a plu, vous le paierez. Vous veniez chercher un livre et puis vous repartiez avec deux autres que vous n'étiez absolument pas venu chercher. Oui, il y avait une clientèle absolument étonnante, très variée. Il y avait des vieux érudits, des universitaires, des jeunes gens.
Il n'y a plus l'équivalent.
Non, parce que c'était vraiment une toute petite librairie. Oui. Donc, dès qu'on entrait, on entrait dans un monde. D'abord, on tombait évidemment sur le maître des lieux, avec, je crois que c'était une de ses tantes ou de cousines qui était aussi assise dans un petit coin. Il y avait deux, trois habitués en général qui étaient là pour faire la conversation. Alors, des vieux érudits, des originaux, des universitaires. Moi, chez Bernard Marie, c'était un... depuis sa jeunesse était un grand client. Christian Taurel rend régulièrement hommage dans des entretiens à Georges Jousset en disant que c'est là qu'il a eu envie d'être libraire. Donc oui, ça se voit, par exemple, c'était une boutique,
un personnage très attachant,
absolument marquante pour une ville comme Toulouse. Donc ces deux rues, et là aussi c'est amusant de voir comment elles ont évolué. Alors la rue des Lois qui est devenue je ne sais pas trop comment on appelle ça, c'est semi-piéton, mais en même temps les voitures peuvent continuer à passer. Les trottoirs sont élargis, il y a des commerces un peu dispensables et puis d'autres qui résistent. La rue du Thor, c'est très intéressant parce qu'on voit, il y a beaucoup de boutiques alors qui changent selon les modes. À une époque, il y avait énormément de boutiques de vente d'or. Beaucoup de téléphonie, de vente d'or, des bureaux de change.
Ah bon ?
Alors maintenant, maintenant il y a beaucoup de kebabs, de tacos, oui. etc.
Pour et les puis, étudiants,
plus
pour
on,
les jeunes.
Plus on arrive vers,
vers
Saint-Cernin, et plus la culture reprend ses droits. Alors il y a Cinémathèque, il y a la Cave oui. Poésie, mmh. il y a les Saves et les, une antenne mmh. De l'Université du Mirail. Et là, et bon, on a, architecturalement, les enseignes un peu grossières et vulgaires avec de la musique tapageuse cède le pas à la, symboliquement à la culture avant d'arriver justement à Saint-Cernin, à la cathédrale.
C'est assez positif, ça.
Oui. Donc ça, mais c'est amusant de voir que la, voilà, la culture est aussi oui. un terrain de résistance.
Alors, vous dites une ville ne vaut que par ses cafés, ses terrasses, ses restaurants. Mais en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça, on parle des villes d'Europe du Sud. Enfin, peut-être pas que d'Europe, d'ailleurs. Parce que si vous allez à New York ou à Helsinki, il n'y a pas tellement de terrasses, de cafés comme ça.
Oui, non, là, c'est le côté méditerranéen.
Oui, méditerranéen, très.
Qu'on retrouve en Espagne, en Italie, oui. même à Istanbul.
Exactement.
Oui, c'est des... C'est...
Alors, vous, étudiant, vous étiez plutôt fêtard.
Oui. Enfin, j'ai eu... Même assez plus tard.
Encore plus tard.
Oui, j'en ai profité, oui. J'aimais bien la vie nocturne. C'était,
oui, le Toulouse des Noctambules, vous avez bien connu.
Oui, les boîtes de nuit de l'époque. Mais encore une fois, c'était... déjà, c'était un autre siècle, puisque c'était la fin du XXe siècle, fin des années 1990. Et c'était totalement innocent. Enfin, je pense que les jeunes gens d'aujourd'hui auraient du mal à imaginer ce que c'était que sortir. On pouvait sortir en toute insouciance. Enfin, personne, oui. J'ai jamais entendu à cette époque-là.
Il n'y avait pas tellement de drogue encore, si.
Ça commençait.
Ça commençait, oui.
Mais il n'y avait surtout pas de coups de couteau, quoi. Personne ne sortait avec un couteau dans les rues. Et maintenant, on voit régulièrement, enfin, à peu près au moins une fois ou deux fois par mois. Bah, d'abord, il y a des assassinats la nuit, tragiques, dans tous les quartiers, Saint-Michel, rue Gabriel-Péry, il y a des gens qui sont assassinés à coups de couteau, et puis tout simplement d'autres qui sont agressés. Mais ça, les coups de couteau, la drogue du violeur, toutes ces choses-là n'existaient pas. Oui. Donc c'était une ambiance très bon enfant, et on pouvait parcourir la rue, la ville et les rues oui. de minuit à 6 heures du matin, oui. sans craindre à peu près, enfin il y a toujours eu une petite délinquance, mais oui. sans craindre d'être dépouillé, agressé ou je ne sais quoi. Oui. Donc il y avait, j'ai eu la chance de connaître cette période.
Alors,
assez oui. privilégié.
Même plus avant encore, les cafés étaient très fréquentés par les étudiants. Ça, je m'en souviens bien. Et vous dites, et c'est vrai, on était sacrément vivants. J'ai bien aimé cette expression.
Oui, parce que là aussi, on a oublié que, en fait, donc, comme il n'y avait pas de téléphone portable, les cafés oui. étaient le lieu où on se retrouvait.
Ouais, on pouvait
c'était
parler.
Nos réseaux sociaux de l'époque. Donc, une fois qu'on avait fini les cours, par exemple, à 17h ou 17h30, on se retrouvait dans les cafés. Alors, et on avait au café, chaque groupe d'amis ou d'étudiants ou de fac avait leur café de prédilection. Alors, ça pouvait être, par exemple, le Saint-Cernin. C'était un des miens. Ça pouvait être le Pérou, ça pouvait être le Florida,
le Pérou, oui,
le Wallace.
Il n'y avait pas la Faluche aussi. Il n'y a pas eu ça.
Oui,
non, vous ne l'avez peut-être pas connu, non.
Si, de nom, mais je ne le fréquentais quoi. Pas. Mais donc voilà.
Oui, parce que la fréquentation des cafés aussi, c'est intéressant de voir comment ça se faisait.
On y allait un peu par hasard pour voir qui de nos connaissances se trouvait là à 17h30, 18h. Et sinon, on demandait aux serveurs, puisque les serveurs, comme on y passait tous les jours ou plusieurs fois par jour, les serveurs étaient devenus, sinon des amis, du moins des intimes. Et on leur demandait, est-ce que tu as vu un tel ou un tel, oui, il a dit qu'il passerait. Voilà, c'était nos messageries vocales de l'époque, c'était les cafés.
Voilà, c'était des échanges spontanés, pas de passé, donc pas d'erreur ni de regret, beaucoup d'avenir. C'est le fait d'être jeune aussi. En fait, ces cafés sont de plus en plus remplacés, enfin, on le craint peut-être, par les Starbucks.
Oui, mais alors ça, c'est, je pense, l'anti-café. J'évoque effectivement...
À un moment donné, vous en parlez,
La naissance,
je puis dire,
l'apparition du premier Starbucks à Toulouse, puisque ça avait été un événement dans la ville. Mais ça avait été... J'évoque aussi, alors de manière peut-être encore plus désolée, l'ouverture du Primark, qui avait été aussi un événement, puisque nos édiles s'étaient déplacés de bon matin pour saluer... cet événement.
Tout le monde en a parlé, mais je n'y ai jamais mis les pieds.
Et là, aujourd'hui encore, j'ai vu... rue de la Pomme, il y a une boutique éphémère. Alors, si j'en crois un article que j'ai lu sur un journal qui vend de la camelote chinoise à bas prix, et il y avait ce matin, je crois, vers 11h, deux files d'environ 100 mètres. Donc, il y avait 200 mètres de clients qui attendaient pour entrer dans cette boutique. Et il y en avait encore un peu moins, il y en avait 50 mètres cet après-midi.
Donc, c'était le magasin du Capitole, puis les Dames de France.
Donc, il y a ce consumérisme assez effrayant où on va... on va acheter les mêmes choses à travers la planète. Moi, je cite aussi un détail qui m'avait frappé, toujours sur cette fameuse marque, je crois qu'elle est irlandaise, de vêtements à bas prix fabriqués dans le tiers-monde. À l'aéroport de Blagnac, j'entendais il y a quelques années un vol qui à destination de Naples. Et il y avait une famille devant moi qui s'échangeait, enfin deux familles qui s'échangeaient des photos de tous les Primark qu'ils avaient visités. Alors, il y en avait à Barcelone, à Londres, à Valence. Ils s'échangeaient les photos,
Oui,
puisqu'effectivement, apparemment,
étonnant.
cette enseigne investit, comme à Toulouse, des lieux assez imposants et assez importants. Et donc voilà, enfin, y a encore, enfin, c'est encore le cas, mais avant, on prenait en photo des basiliques, des cathédrales, des musées. Maintenant, on
Maintenant.
prend en photo, on s'échange des photos des enseignes, de la grande
Autre
distribution.
temps, autre mœurs, oui, c'est un fait. Bon, je me dis peut-être que ces gens-là n'avaient peut-être pas les moyens d'entrer dans ou d'acheter dans le magasin du Capitole à l'époque, qui était quand même, c'était de très bonne qualité, de bonne marque, mais peut-être aussi qu'on achetait moins, mais de meilleure qualité.
Oui. Puis il y a quand même, malgré tout, une fascination. Enfin, je pense pas, par exemple, si on en parlait de Starbucks, que les mauvais cafés vendus dans ces chaînes soient vraiment moins chers qu'un
Oui,
café,
oui.
qu'un express
Mais
bu dans un café de
ça fait
quartier.
très non d'avoir
Oui, on accède à
à
un
la
style de
main.
vie. Il y
Oui, c'est
a
ça. On montre qu'on est occupé,
la
hein, qu'on est.
Wi-Fi est garantie. Puis moi, un détail aussi qui m'amuse, que j'évoque dans le livre, c'est depuis quelques années. Alors là, je saurais pas dire si ça fait 5-10 ans. Mais de voir le spectacle des gens, notamment le matin, qui boivent leur café dans des gobelets dans la rue. Alors ça, en fait, on a vu ça pendant des décennies dans les séries et les films
Oui,
américains.
oui,
Et puis
oui.
un jour, voilà, grâce à ces magasins notamment, qui vendent comme si Toulouse était une ville. Et quand on voit les gens qui boivent leur café dans la rue en marchant, bon, en général, on comprend. Apparemment, ce ne sont pas des grands traders ou des très grands chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de s'asseoir
Oui, mais ils
à une
veulent faire
terrasse.
comme si.
Mais voilà, ça donne, entre guillemets, comme on
Oui.
disait naguère, ça donne un genre.
Oui, c'est
Mais de
ça.
voir, enfin, c'est un petit ridicule, mais ça m'amuse beaucoup de voir ces gens qui sont tellement pressés qu'ils sont obligés de boire du café en marchant.
Oui. Alors, je vous propose, Christian Autier, d'écouter une chanson de Charles-Élie Couture, La musique des villes.
Un chien qui aboie, un pigeon qui roucoule, un craquement dans le bois ou la pluie qui s'écoule. Ronronnement frigorifique, ou dans le fond un compresseur, vibration harmonique d'un vieil aspirateur. Les villes sont remplies de sons, confondues entre mille, c'est la musique des villes. Un moteur qui bondit, un truc qui casse, une boule ou mélodie. Les villes sont remplies de sons, confondues entre mille, c'est la musique des villes. Symphonie de bruit, là où je vis, à l'écoute aux aguets, cette musique me plaît. Dans la rue en cul-de-sac, derrière la bibliothèque, je connais le son sec de tes talons qui claquent. Le grésillement d'un néon, le frottement du nylon. Ma main sous tes collants, une ambiance de roman. J'écoute les conciliabules, j'ai puis une conversation entre deux klaxons. Et puis je me rapproche et j'entends cette vieille pie qui reproche à un mioche de faire du skate sous la pluie. En alerte, je veille, je guette, je tends l'oreille, j'écoute ce qui se dit et tous les sons de la nuit. Mes idées se fondent et je rêve donc. J'entends le son sombre d'un bateau qui sombre dans le port de Londres. Et puis tout s'effondre. rempli de sons, confondu entre mille, c'est la musique des villes. Cette musique me plaît. Les villes du son, remplies de son, confondues entre mille, c'est la musique des villes.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Christian Autier pour son ouvrage « Petit éloge amoureux de Toulouse » paru chez Privat. Et c'est donc évidemment, on va parler de ce regard intime, sincère et libre sur notre ville rose et sur ses habitants. À un moment donné, voilà ce que vous dites, j'avais noté. Je ne suis jamais allée dans un Starbucks et je n'irai jamais. Ça, bon, donc c'est écrit. Hein. C'est la modeste, voire insignifiante résistance que j'oppresse à ces firmes qui colonisent gentiment et qu'uniformisent en douceur. Je ne suis donc jamais entrée dans ce genre de boutique, mais j'ai l'impression d'y être déjà allée grâce à Philippe Lançon, celui qui a écrit
Le Lambeau, journaliste à Libération et Charlie Hebdo.
En effet, je n'ai pas oublié un article qu'il avait signé en 2004 dans Libération à l'occasion de l'ouverture du premier Starbucks à Paris, avenue de l'Opéra. Un détail notamment m'avait frappé. Chez Starbucks, on demandait son prénom au client. La pratique existait déjà sans doute ailleurs ou a dû se répandre depuis lors de la commande et on l'appelait ensuite comme un vieil ami ou un copain. En fait, c'est vrai que ce que vous hérisse, c'est le toc et l'importer, ce qui ne fait pas partie de nos traditions à nous.
Oui, vous avez tout à fait résumé. Puis cette fausse, effectivement, convivialité, cette fausse, le faux, le simulacre. Enfin voilà, Guy Debord avait analysé ça dès les années 60. Oui, on est dans une ère de représentation et de falsification. Et y compris dans les choses, les activités les plus élémentaires de l'existence humaine. Donc il y a des gens qui vous appellent par votre prénom et que vous ne connaissez pas. Enfin bon, c'est des détails, mais ça en dit en même temps, je crois, beaucoup sur les temps où nous sommes.
Oui, ça dit beaucoup sur la volonté d'uniformiser aussi, finalement. Parce que comme vous dites, bon, un prénom, c'est quand même un ami qui va nous appeler par le prénom.
On citait les enseignes, effectivement, à propos d'uniformisation. Voilà, il suffit, hélas, même quand on voyage, on retrouve toutes ces enseignes internationales, qu'il s'agisse de vêtements, de marques de café, enfin de café de capsules, de café à boire, d'ordinateurs, de téléphonie. Ouais. On retrouve toutes les mêmes enseignes dans le monde entier. C'est assez effrayant. Et même, entre guillemets, j'allais dire, une petite ville comme Toulouse, puisque Toulouse, au risque de blesser certains, reste une petite ville à l'échelle du moins européenne ou mondiale, de 500 000 habitants, on va dire. Même une petite ville comme celle-ci est contaminée, entre guillemets, par toutes ces enseignes qui uniformisent.
Oui, alors c'est vrai que lorsqu'on voyage, on est étonné parce que vous dites justement, bon, bien sûr, il y a les monuments, mais après, il y a une uniformisation, mais même dans l'habillement des gens, tout le monde s'habille de la même manière maintenant.
Oui, bien sûr.
Ouais. Alors, vous parlez également, non pas que des cafés, mais vous parlez également des restaurants. Et je sais que dans Culture 31, vous avez des chroniques gastronomiques.
Oui, ben là aussi, c'est une de mes passions. Là, dans le livre, je m'attarde pas trop sur les restaurants parce que c'est parfois un peu éphémère où j'évoque des lieux qui ont disparu, comme un lieu qui était très, très plein de personnalités qui s'appelait La Belle Équipe à Toulouse, rue des Polinaires, à côté des Carmes. près de la, entre les Carmes et la Dalbade. Ça, c'était un restaurant assez, assez mythique et pour le coup très authentique. Oui, je vois quelques lieux.
Et puis il a fermé
lieux.
Pour quelle raison? Ou comme ça
ça fait 20 ans que les propriétaires, enfin que les gérants s'en occupaient. Ils avaient envie de changer, mais qui était un lieu très, très, très étonnant.
Oui. Ah, maintenant, allez, entre nous, qu'est-ce que vous recommanderiez comme...
Comme restaurant, bon, il y en a beaucoup plus que justement qu'il y a 25 ans, donc il y en a énormément. Moi, je conseillerais rue Alexandre Fourtanier, près de la place Saint-Georges, un restaurant qui s'appelle La Binocle, qui est totalement épatant dans le genre tradition bistrot.
La Binocle
gastronomie française classique et de bistrot, c'est formidable. Je citerai la Pente Douce, rue de la Concorde, à Minimis, bon, qui est un chef qui est connu maintenant à travers la France. Il y en a beaucoup. Après Toulouse aussi, moi j'aime beaucoup le vin, donc Toulouse a une tradition de cave restaurant, donc on a le temps des vendanges qui n'est pas très loin de vos studios, place de l'Estrapade à Saint-Cyprien, qui est une cave restaurant formidable, qui a parmi les meilleures sélections
et
de vin
place,
de Toulouse.
Oui, vous parlez de la place de l'Estrapade, là j'y ai connu un libraire.
Oui, le Hussard bleu. Que j'évoque aussi
à un moment
dans
donné,
ce livre,
parler.
Puisque j'avais rencontré Christian Millot qui était venu présenter son livre au Galop des Hussards, ce qui tombait bien puisque la librairie donc, s'appelait le Hussard bleu et qu'il avait bien connu Roger Nimier. Donc oui, ça aussi, c'était un lieu très marquant.
Le libraire est mort brutalement.
Oui, il a laissé. Ouais. Là, il a marqué les gens. Les gens se souviennent, comme vous le dites, les gens se souviennent de lui. C'était M. Kaleka. Et beaucoup de Toulousains ne l'ont pas oublié.
Tout à fait. Alors bon, on a parlé, je pense que c'était hors antenne, on a parlé des cinémas. Parce que bon, on fait un parcours de jeunes, d'étudiants. Et puis même pour les autres, même les retraités peuvent également vous suivre dans ces restaurants, même ces cafés, ça fait partie de l'art de vivre, du plaisir de vivre. Les cinémas. Alors c'est vrai, vous me rappeliez hors antenne qu'en fait, beaucoup de cinémas ont fermé. Alors je pense qu'il y a les grands ensembles, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un nom.
Les multiplexes qui ont
pris le relais. Et bon, c'est peut-être plus facile pour les gens qui habitent en banlieue, il faut reconnaître.
Oui, mais bon, malgré tout, comme vous le disiez, il y a plus de 100 000 étudiants globalement au centre-ville ou dans les quartiers du centre-ville.
Est-ce qu'ils vont au cinéma maintenant?
Alors, c'est vrai que le Covid a beaucoup changé les choses, apparemment.
Les
statistiques, ça a beaucoup changé le mode de consommation. Les gens se sont mis énormément sur les plateformes, sur le streaming, alors déjà qui était un mode de consommation assez important. Mais j'appartiens à une génération, encore une fois, où les villes, les grandes villes, c'était les cinémas, c'était les cafés, les restaurants, les cinémas. Oui. Et étant cinéphile...
Qui n'était pas cher non plus.
Non, c'était pas cher. Et moi, je me souviens, donc... Il y avait une douzaine de cinémas au centre-ville à Toulouse. On passait de l'un à l'autre. Il y avait énormément de films à l'affiche. Il y avait beaucoup de reprises, des cinémas d'art et essai comme le Rex, où on pouvait voir tous les grands classiques du cinéma.
Et puis, il y avait de grandes salles. C'était des cathédrales, pour certains, sur les boulevards en particulier.
Et puis, il y avait encore des... moi, j'en ai connu encore un peu. Il y avait des balcons, des cinémas avec balcons, comme le Trianon, boulevard de Strasbourg. Il y avait une très grande salle avec un balcon. Ça, c'est des choses qui n'existent plus. Et donc, oui, aujourd'hui, vous avez trois cinémas au centre-ville de Toulouse. Alors, je mets un peu à part le Saint-Agne qui existe toujours, parce que... le cratère.
Le cratère.
Le Saint-Agne n'existe plus.
Du côté de ce boulevard
Saint-Michel.
Mais parce
qu'il n'y a que des séances le soir et il n'y a pas vraiment de nouveautés, d'exclusivité. Ce sont plutôt des reprises. Mais vous avez trois cinémas au centre de Toulouse, l'ABC, American Cosmographe et le Gaumont Wilson. Donc, c'est quand même... assez pathétique pour une ville, encore une fois, de 500 000 habitants. Comme je vous le disais, moi, je suis un grand fan de Clint Eastwood. Le dernier Clint Eastwood n'est pas sorti à Toulouse. Il fallait aller dans un multiplex à Blagnac ou je ne sais où pour le voir. Donc, c'est quand même un appauvrissement, une provincialisation dans le mauvais sens du terme de la ville.
Mais comme vous
dites,
là, c'est sans doute qu'il y a d'autres choses qui ont pris le relais, hein, d'autres formes de... Croyez pas, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ferme. C'est que ce n'était pas rentable.
Oui, ou on imagine qu'il y aura des choses plus rentables.
Oui, c'est ça.
Oui, enfin, en même temps, le cinéma restait, encore une fois, tout ça n'a pas, ces cinémas n'ont pas fermé, dont j'évoquais, étaient fermés avant le Covid. Donc, ce n'est pas le Covid qui est responsable de tout. Mais le cinéma restait donc quand même un des loisirs principaux des Français. Hein.
Oui, mais Christian Autier, il y a des tas de banlieues, par exemple à Ramonville, par exemple à Fonsegrive, il y a des salles de cinéma qui se sont ouvertes. Ça, il n'y avait pas à l'époque. À cette époque-là, celle dont nous parlons.
Oui, peut-être.
Je pense aussi que ça draine... Alors, vous parlez des étudiants, mais effectivement, peut-être...
Oui, non, après, effectivement, les villes changent dans leurs activités. Regardez le nombre de... On pourrait dire la même chose pour les maisons de la presse. Le nombre de maisons de la presse, de kiosques à journaux qui ont disparu. Là aussi, c'est un mode de consommation qui est passé.
Alors, évidemment, on va parler rapidement parce que j'aimerais bien qu'on parle des célébrités qui ont marqué la ville. Il nous reste beaucoup, peu de temps. Les échecs, vous dites Place Occitane, c'est un échec, je suis d'accord avec vous, total. Avant, après, pendant, c'est un échec. Place Jeanne d'Arc, c'est moche. Où est le marché aux fleurs d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un marché aux fleurs? J'en sais rien. Les réussites, Place Saint-Georges, pour moi, elle est inchangée, mais vous me dites qu'il y a eu des modifications, mais elle est restée très jolie. Alors après, il y a le marché Victor Hugo qui n'a pas bougé. Bon, il y a malheureusement, mais ça c'est très ancien, le marché des Carmes qui avait été démoli. Maintenant, il va être classé, non?
On peut voir des photos, d'ailleurs en ce moment, enfin depuis quelques mois, de Jean Dieuzède qui avait photographié la destruction du marché des Carmes. Alors je ne sais plus si c'était la fin des années 50 ou plutôt le milieu des années 60. C'est assez récent, donc il y avait un très beau marché couvert qui a été remplacé par un parking... Oui. Comme à Victor Hugo d'ailleurs, mais Victor Hugo c'était un marché couvert, naguère. Mais je dirais la perspective, en fait, au Carme il est moins moche selon moi qu'à Victor Hugo, puisqu'on a moins de perspectives pour apercevoir le marché. Tandis que depuis à Victor Hugo, vous pouvez l'apercevoir de très loin, à travers les rues.
C'est vrai. Donc, c'est vrai. Alors, vous, de réussite, la place du Puy, moi je la trouve sympa, je l'aime bien.
Oh oui,
il y a la halle au grain.
Elle n'a pas bougé aussi,
c'est
pour ça.
Oui. Et cette colonne qui a été restaurée de Dupuis, ce général de Bonaparte. Il y a la place de la Trinité, qui est une très jolie place. Vous écrivez quelque chose de très joli d'ailleurs là-dessus. Les fontaines, il y a beaucoup de fontaines dans cette ville. Et puis, on peut évoquer quand même certaines célébrités. Bernard Maris, qui je pense que vous avez particulièrement apprécié.
Oui, mais j'en ai profité pour rendre hommage à quelques Toulousains disparus. Donc, il y a évidemment Bernard Maris, que j'avais eu comme enseignant à l'IEP de Toulouse et que j'ai côtoyé par la suite. Je rends hommage aussi à Bartholomé Bénassar. Comme Bernard Maris, alors ces deux personnes, des universitaires brillants. Bartholomé Bénassar, c'est un historien de réputation mondiale, spécialiste
de l'Espagne. Tous les deux étaient venus à ce micro, oui.
Et de l'Amérique latine, mais qui étaient des... Et ce qu'on savait moins, c'est que tous deux, par ailleurs, étaient des romanciers. Ils avaient publié plusieurs romans. Et d'ailleurs, il y en a un de Bartholomé Bénassar, Le Dernier Sceau, qui va être réédité au mois d'octobre ou septembre aux éditions du Cherche Midi. Mais leur carrière de romancier a été un peu éclipsée par leur succès, soit de journaliste, soit d'universitaire. Oui, c'est des gens auxquels j'ai rendu hommage.
Évidemment.
Jacques Verdier, qui est un écrivain et journaliste, qui a dirigé pendant 20 ans. Alors, je parle assez peu de rugby, mais j'évoque quand même un peu le rugby, notamment grâce à lui.
On en parle suffisamment par ailleurs. Michel Plasson, évidemment. Nougaro, évidemment aussi. Et puis, José Cabanis, bien sûr.
Oui, bien sûr, qui est l'écrivain le plus illustre toulousain. Même s'il est assez peu connu, un peu oublié.
Et maintenant,
oublié.
Je pense que les jeunes ne le lisent pas tellement.
Non, on connaît la médiathèque, peut-être.
Voilà. Alors, deux grands résistants, dont François Verdier. Et voilà. Et donc, évidemment, on est passé très vite. Finalement, ça passe très vite. Vous aviez parlé de Modiano tout à l'heure. Il disait « Les thèmes de la disparition de l'identité du temps qui passe sont étroitement liés à la topographie des grandes villes. » Et c'est vrai, les hommes comme les pierres.
Ah oui, ben je connaissais pas cette phrase, mais je pourrais pas dire mieux. Oui, c'est exactement ça. Oui.
Les thèmes de la disparition de l'identité du temps qui passe sont étroitement liés à la topographie des grandes villes. En tout cas, Christian Autier, c'est ce que nous a fait ressentir à travers ce livre que j'encourage nos auditeurs à lire, à acheter et lire. Petit éloge amoureux de Toulouse paru chez Privat. Christian Autier, un grand merci.
Merci.
Il y aura des journées des temps difficiles et des nuits de souffrance qui semblent insurmontables, où l'on pleure bêtement, les deux bras sur la table, où la vie suspendue ne tient plus qu'un fil. Mon amour, je te sens qui marche dans la ville. Des lettres écrites et déchirées, des occasions perdues, des amis fatigués, des voyages inutiles, des déplacements vides, des heures sans bouger, sous un soleil torride. Sans parler, qui s'approche de moi, qui me regarde en face, et son sourire est beau, son pas lent et tenace. Elle a le souvenir dans ses yeux de cristal, elle a mon avenir dans ses mains de métal. Elle descend sur le monde comme un lot de glace. Il y aura la mort, tu le sais, mon amour. Il y aura le malheur et les tout derniers jours. On n'oublie jamais rien, les mots et les visages flottent joyeusement jusqu'au dernier rivage.